Chapitre 30. Vie et mort d'Eleanor Lowell. Salem, Massachusetts. Samedi 24 juillet 2010. Avant de prendre la route, Gaal Wood et moi terminions notre petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel en attendant Lorraine, lorsque Patricia Whitsmith débarqua. Elle se posta devant notre table avec un air presque timide que je ne lui connaissais pas, et après nous avoir adressé un sourire, elle nous dit « Merci. Merci à tous les deux. Vous avez rendu la liberté à un homme que tout le monde avait abandonné. Hier, pendant la conférence de presse, j'ai été un peu dur. J'aurais dû vous remercier publiquement, je ne l'ai pas fait et je le regrette. »
« Ne vous en faites pas, » la rassura Galloway. « Le sergent Vance aurait dû être écarté de la police depuis un moment. Voilà ce qui se passe quand personne n'assume ses responsabilités. »
« Vous avez pris les vôtres, » constata Patricia.
« Vous prenez un café ?»«
Avec plaisir. »
Elle tira une chaise et s'installa avec nous.
« Qu'est-ce qui vous amène à Mount Pleasant de si bon matin ?»
s'enquit Galloway.
« Je viens voir Eric. »
« Comment va-t-il ? »
« Comme quelqu'un qui vient de passer 11 ans derrière les barreaux et qui va devoir réapprendre à vivre. Il n'est plus le même homme. Il va falloir qu'il l'accepte, et sa famille aussi. L'épreuve de la réinsertion sera probablement plus difficile encore que celle de l'incarcération. Eric veut reprendre son travail au magasin de ses parents. Il sera exposé au regard des clients et je ne sais pas si c'est bien pour lui.
« Que craignez-vous ? » demandai-je.
« Les habitants de Mount Pleasant le considéreront coupable tant qu'on n'aura pas retrouvé le meurtrier d'Alaska. » C'est un problème récurrent lorsque des condamnés sont innocentés sur la base d'un dossier entaché d'erreurs. Les preuves, une fois démontées, laissent une enquête sans substance. Trop de temps s'est écoulé depuis le crime pour que celui-ci soit résolu. Vous imaginez le traumatisme pour les familles des victimes qui se retrouvent sans réponse. Pour la personne innocentée, c'est le début d'un nouveau calvaire. Elle doit retrouver une place dans la société où tout le monde la considère avec suspicion. Les gens ont majoritairement confiance en leur système judiciaire, surtout ceux qui n'ont jamais eu affaire à lui. Ils ne peuvent s'empêcher de penser que si quelqu'un n'avait vraiment rien à se reprocher, il n'aurait pas passé tout ce temps en prison. C'est ce qui va malheureusement se produire pour Eric tant qu'on n'a pas mis la main sur l'assassin d'Alaska.
« J'ai une bonne nouvelle à ce sujet, »
annonça alors Galloway.
« Une bonne nouvelle ?»
répéta une voix enjouée derrière nous. C'était Lorraine qui nous rejoignait. Elle avait les cheveux encore humides de sa douche. Elle avait quitté ma chambre d'hôtel une heure auparavant pour retourner se changer chez elle. La veille au soir, après avoir dîné chez ses parents avec son frère, elle était passée devant l'hôtel. Il était presque minuit. Elle avait vu que ma chambre était éclairée et m'avait envoyé un message. « Si tu ne dors pas, regarde par la fenêtre. » Je ne dormais pas, j'étais en train de lire. J'étais allé à la fenêtre et Lorraine me sourit. « Je peux monter ?» m'avait-elle demandé.
« Évidemment. »
Elle m'avait rejoint et nous avions passé la nuit ensemble. À un moment donné, elle m'avait murmuré
« J'ai retrouvé mon frère grâce à toi. J'ai retrouvé le droit de vivre. Si j'avais su, il y a 3 semaines, en t'arrêtant pour excès de vitesse, que tu allais changer le cours de mon existence. »
Comme à chaque fois, ces déclarations me mettaient mal à l'aise. J'aimais beaucoup Lorraine, mais je sentais bien l'écart entre nos sentiments réciproques. À la table du petit déjeuner, Lorraine s'assit entre Patricia et moi. Elle glissa sa main sous la table et prit la mienne et la serra fort.
« C'est quoi cette bonne nouvelle ?»
demanda-t-elle en saisissant un morceau de pain.
« Nous avons fait une découverte décisive hier, » répondit Galloway. « Je pense qu'il s'agit du tournant de l'enquête. Est-ce que le nom de Nicholas Kaczynski vous dit quelque chose ?»«
Est-ce que ce n'est pas l'un des flics qui enquêtait avec vous à l'époque ?»
répondit Patricia.
« Exact, » confirma Galloway. Il est mort le mois dernier. Suicide. Il avait passé les 8 dernières années de sa vie en fauteuil roulant après avoir été renversé par une voiture.
Quel est le rapport avec notre dossier ?
Interrogea Patricia.
Nicholas Kaczynski était présent dans la salle d'interrogatoire le soir de la mort de Walter Carré. Il était le seul à savoir que les aveux de Walter Carré avaient été extorqués et que sa mort était une bavure. Il savait donc également que si Walter avait avoué un crime qu'il n'avait pas commis, Eric était innocent. Et voilà qu'à la fin du mois de janvier 2002, soit peu après la condamnation d'Eric, Kaczynski se fait percuter par une voiture. Il survit, mais reste handicapé. Tout porte à croire que Nicholas Kaczynski n'a pas été victime d'un accident, mais d'une tentative de meurtre.
Et qui aurait pu vouloir le tuer ? Demanda Lorraine.
La seule autre personne à savoir que ni Walter ni Eric n'étaient coupables, répondit Patricia qui venait de comprendre. Le véritable meurtrier d'Alaska Sanders.
Précisément, acquiesça Gallowood. En faisant taire Kaczynski, l'assassin s'assurait de ne jamais être démasqué.
Et comment liez-vous l'attaque contre Kaczynski et le meurtre d'Alaska Sanders ?
Demanda Lorraine qui semblait quelque peu dubitative.
Par une voiture bleue immatriculée dans le Massachusetts, indiqua Gallowood. Cette voiture bleue qui a essayé de tuer Kaczynski pourrait être celle qui a traversé Mount Pleasant en trombe après l'assassinat d'Alaska. Et cette même voiture bleue ressurgit peut-être dans un poème rédigé par Eleanor Lowell.
Eleanor Lowell est cette jeune fille qui s'est suicidée, c'est bien ça ?
Demanda Patricia.
Absolument.
Il y a très probablement un rapport entre Alaska et Eleanor Lowell, expliquai-je. Eleanor est le sujet des fameux messages. Je sais ce que tu as fait. Si Alaska s'implique au point de rédiger des courriers anonymes, c'est forcément que quelque chose la travaille. Le 22 mars 1999, au cours de la dispute entre Alaska et Eric, celui-ci démontre qu'il n'a pas poussé Eleanor au suicide. Alaska comprend alors qu'Eleanor avait un autre homme dans sa vie. Nous pensons que tout tourne autour de cet amant. Alaska avait aussi un amant qui habitait Salem, à en juger par des cadeaux qu'il lui avait faits. Et si c'était la même personne ? Si Alaska avait découvert que son amant était l'amant d'Eleanor, et si elle avait établi que c'était lui qui l'avait poussé au suicide ? Alaska et Eleanor étaient amies. Elles habitaient Salem toutes les deux. Elles auraient parfaitement pu fréquenter le même homme.
C'est donc pour ça que vous voulez aller à Salem ce matin ?
Comprit Lorraine.
Oui, répondit Gallowood en consultant sa montre. D'ailleurs, il faut y aller.
Tenez-moi au courant, dit Patricia. De mon côté, je vais profiter de ma visite à Eric pour lui parler de sa relation avec Eleanor. Il se confiera sans doute plus volontiers à moi.
Stephen et Maria Lowell, les parents d'Eleanor, nous attendaient dans leur villa cossue de Salem. Nous les avions prévenus la veille de notre venue. À peine avions-nous pris place dans leur salon que Maria Lowell nous demanda
« Que se passe-t-il ? »
« Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, » répondit Gallowood, « nous avons besoin de parler de votre fille. »
« Vous m'avez aussi dit que c'était en lien avec la mort d'Alaska Sanders ? Quel est le rapport ?»«
Nous n'avons encore aucune certitude, Madame Lowell. Que pouvez-vous nous dire de votre fille Eleanor ?»
Maria Lowell soupira.
« Je ne sais même pas par où commencer. Je vous ai apporté des photos et tout ce que j'ai gardé d'elle. Elle écrivait beaucoup. Elle avait un côté artiste. »
Elle nous présenta des clichés de sa fille, pris l'été de sa disparition. Eleanor était une jolie blonde au visage émacié avec de longs cheveux raides qui lui tombaient sur les épaules. Une beauté froide.
« Elle était très sensible, »
nous raconta Stephen Lowell.
Depuis toute petite, elle semblait affectée par les drames d'autrui. Elle absorbait les tristesses et les contrariétés des autres et se les appropriait.
Elle souffrait d'un profond mal de vivre, ajouta Maria Lowell. Nous nous sentions impuissants face à sa détresse. À l'âge de 12 ans, elle a fait une première tentative de suicide. Elle a recommencé lorsqu'elle avait 16 ans. Les deux fois, elle avait avalé toute une quantité de tranquillisants avant de nous alerter. Les médecins avaient estimé qu'il s'agissait d'appels au secours. Elle avait fait 2 séjours dans des maisons de repos, comme ils disent. Des cliniques psychiatriques, si vous préférez.
Elle était suivie ?
Oui, elle avait fait le tour des psys jusqu'à trouver le bon. Le docteur Benjamin Bradbird, un très bon médecin malgré tout.
Pourquoi malgré tout ?
Parce qu'il n'a pas pu l'empêcher d'en finir. En même temps, quand quelqu'un a décidé de mourir... « Tenez, je vous ai noté les coordonnées du docteur Bradbird. Il attend votre appel. Il devait partir en vacances aujourd'hui, il a reporté à demain pour vous parler. Je vous ai aussi dressé une liste des copines d'Eleanor. »«
Je crois savoir, » reprit Gallowood, « qu'Eleanor avait entrepris une carrière de mannequin. »«
Oui, » confirma Maria Lowell. « Elle avait posé pour des magazines. Elle était souvent en vadrouille à New York. Elle avait du succès. Mais je ne suis pas certaine que ce mode de vie lui faisait du bien. » Quand elle était à Manhattan, elle passait la nuit dans des soirées soi-disant « sélectes », mais où il ne se passait rien de très sélect, si vous voyez ce que je veux dire.
Drogue ?
Oui,
confia Maria Lowell. Je crois qu'Eleanor prenait de la cocaïne. J'ai essayé de la mettre en garde à plusieurs reprises sur son mode de vie, mais elle répondait de façon agressive. Elle disait que sa carrière parlait pour elle et que je ferais mieux de me mêler de mes affaires. Comme elle était majeure, je ne savais pas comment m'interposer. Je repris le fil de la conversation. « Pardonnez-moi, monsieur et madame Lowell, mais je suis obligé de revenir sur l'épisode douloureux du 30 août 1998. Comment était Eleanor à cette période ?»«
J'aurais dit plutôt bien, » répondit Stephen Lowell. « Eleanor semblait en bonne forme. Le docteur Bradbird nous a expliqué qu'il est fréquent qu'une personne suicidaire, au moment de passer à l'acte, donne le change. Ses proches pensent que son état s'améliore, alors que c'est la fin qui se profile. »
Tout de même, précisa Maria Lowell, Eleanor était très heureuse d'avoir intégré le jury de Miss Nouvelle-Angleterre. Le concours de beauté? Demandai-je. Oui, vous connaissez? C'est la compétition remportée par Alaska Sanders en septembre 1998. Exactement, confirma Maria Lowell. Eleanor l'avait elle-même remportée 2 ans auparavant. Les organisateurs lui avaient proposé de rejoindre le jury, ce qu'elle avait accepté avec beaucoup d'entrain. C'est un prix prestigieux et puis c'était bon pour son image et sa notoriété.
Quand lui a-t-on fait cette proposition ?
Interrogea Gallowood. Au début du mois d'août, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, quelques semaines avant ce tragique 30 août 1998. Le soir de sa mort, Eleanor est allée faire du sport au lieu de dîner, comme souvent. Après sa douche, elle m'a annoncé qu'elle sortait. Je lui ai demandé où elle allait, elle a dit qu'elle avait envie de se baigner. Il faisait encore grand jour et très chaud. Je pensais qu'elle allait retrouver des amis à la plage de Dovereau, à Marblehead, la ville voisine. Elle allait souvent là-bas. Quand je me suis couché vers 23h, mon mari dormait déjà. Quand je me suis réveillé vers 6h30, j'ai trouvé un message sur mon téléphone portable. Elle avait écrit « Je n'ai plus la force de continuer ». J'ai immédiatement prévenu la police et la police a contacté les amis d'Eleanor. Elles ont indiqué avoir passé la soirée avec elle à Chandler Ovi Park. Vers 23h30, elles étaient toutes parties, mais Eleanor avait voulu rester encore un peu. La police s'est donc rendue à Chandler Ovi Park et a découvert les affaires d'Eleanor en contrebas du phare. Vêtements, porte-monnaie, téléphone portable, tout était là. Des recherches ont été entreprises dans l'océan pendant plusieurs jours, quand bien même à l'évidence elle était morte. On n'a jamais retrouvé le corps. La police a conclu à un suicide par noyade.
Et vous, vous en pensez quoi ?
Maria Lowell eut une moue désabusée. Depuis sa première tentative, tous les jours, quand je voyais Eleanor vivante devant moi, je songeais qu'il s'agissait d'un miracle. Je pense que ça répond à votre question. Vous ne m'avez toujours pas parlé du lien entre Eleanor et Alaska, à part qu'elles se connaissaient, évidemment. Lorraine prit la parole. En février 1999, vous êtes allé trouver Alaska à Mount Pleasant. Vous lui avez posé des questions à propos d'une liaison qu'Eleanor aurait entretenue avec un homme plus âgé. Vous soupçonniez cet homme, sur la foi du journal intime de votre fille, d'avoir poussé Eleanor au suicide. C'est exact. Comment le savez-vous ? Alaska s'en était ouverte à l'un de ses amis, expliqua Lorraine. Est-ce que vous avez identifié cette personne, finalement ? Non, malheureusement pas. Et ce n'est pas faute d'avoir interrogé toutes les amies d'Eleanor. J'en ai parlé à la police aussi, ils avaient l'air de s'en ficher. Ils disaient qu'un témoignage tiré d'un journal intime, ça n'avait pas valeur de preuve. Pourrions-nous voir ce journal ? Demanda Lorraine. Maria Lowell fouilla dans le carton qui contenait les reliques liées à sa fille. Elle en sortit un carnet et nous donna lecture des extraits qu'elle avait partagés avec Alaska. Elle nous dit ensuite « Je savais que c'était un homme mûr parce que Eleanor s'était confiée à l'une de ses amies. Quelques semaines après ma visite à Alaska, j'ai découvert un autre carnet. » Elle sortit du carton un cahier d'écolier dont elle parcourut les pages jusqu'à trouver le texte qu'elle cherchait. Il me parle de son divorce comme d'une libération. Il me dit « Quand je serai libre, je serai à toi. » Nous pourrons nous montrer en public. Mais je crois que même divorcé, il ne le fera pas. Il a honte, à cause de notre différence d'âge. Lorraine récapitula. Donc, Eleanor avait une liaison avec un homme nettement plus âgé qu'elle, sur le point de divorcer et propriétaire d'une voiture bleue.
Oui,
confirma Maria Lowell. Je repris. Nous nous demandons si Alaska n'avait pas une relation avec l'amant d'Eleanor. Ce n'est encore qu'une hypothèse que nous essayons de creuser. Avez-vous un indice concernant l'identité de cet homme ?
Aucun.
Y a-t-il autre chose que vous avez découvert au sujet de votre fille et que nous devrions savoir ?
Demanda Galloway.
Un détail, même insignifiant, peut avoir son importance.
Il y a effectivement une chose qui m'a tracassé. Au cours de l'été qui a précédé la mort d'Eleanor, j'ai trouvé dans la poche de son pantalon, en faisant la lessive, un ticket de bus. Elle avait pris un billet le 5 juillet 1998 à Rockland, Maine, pour rentrer à Salem. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait pu aller faire à Rockland.
Attendez, dit Galloway. Le 4 juillet, comme elle le raconte dans son journal intime, Eleanor est malheureuse avec son amant. Et le lendemain, elle achète un billet de bus à Rockland pour rentrer à Salem. Son amant habiterait à Rockland ?
Je me suis posé la même question. J'ai interrogé ses amis, mais de nouveau sans trouver de réponse. Je suis même allé à Rockland faire le tour des commerces avec une photo de ma fille, mais personne ne l'a reconnue.
Madame Lowell, demanda Galloway en désignant les carnets d'Eleanor, est-ce que nous pouvons les prendre avec nous ? Nous vous les rendrons, bien évidemment.
Suivant les recommandations de Maria Lowell, nous contactâmes le docteur Benjamin Bradbird, qui nous proposa de passer à son cabinet pour qu'il puisse consulter ses notes sur Eleanor. C'était un médecin réputé, régulièrement consulté par la justice pour ses expertises psychiatriques. Il était élégant, mince et prenait visiblement soin de sa personne. Il approchait la soixantaine.
Eleanor est une patiente qui m'a marqué. Elle se posait énormément de questions métaphysiques. Elle endossait la douleur des autres. C'était une personnalité complexe, un peu manipulatrice, présentant un léger trouble bipolaire qu'on aurait pu soigner avec un traitement approprié. Mais Eleanor ne respectait pas les dosages et surtout j'ai découvert qu'elle consommait occasionnellement de la cocaïne. J'avais peur de l'effet d'un tel cocktail. Quand j'ai appris sa mort, je me suis dit qu'il aurait mieux valu tenter le coup. J'ai toujours eu des regrets.
Vous dites sa mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps ? Fit remarquer Lorraine.
Je ne fais que répéter les conclusions de la police, qui me semblent par ailleurs logiques. Je sais bien que le corps n'a pas été retrouvé, ce qui est d'ailleurs toujours épouvantable pour les familles qui sont empêchées de faire leur deuil. Aussi j'évite l'ambivalence qui pourrait laisser croire qu'elle est encore en vie quelque part.
Pourrait-il s'agir d'une disparition volontaire ? Interrogeai-je.
Le docteur Bradbird s'amusa de cette remarque.
Eleanor ne voulait pas disparaître, au contraire, elle rêvait d'être connue. Elle faisait pourtant une carrière de mannequin, releva Galloway.
Elle voulait davantage, précisa Bradbird. Elle se voyait vedette hollywoodienne. Il arrivait qu'on la reconnaisse dans la rue et qu'on lui dise « T'es la fille de la pub ?» Ça la rendait dingue. Elle voulait être plus qu'un visage. Elle voulait être un nom et devenir actrice. Elle avait tenté de participer à des castings de films, mais sans succès.
« Comme Alaska, » dis-je.
« Qui ça ?» demanda Bradbird.
« Alaska Sanders, » précisai-je, « la fille au sujet de laquelle nous enquêtons. Elle voulait devenir actrice, elle aussi. Il y a beaucoup de similitudes entre Eleanor et Alaska. On se demande même si elles n'ont pas eu le même amant. Eleanor ne vous a jamais parlé d'Alaska ?»«
Jamais. En revanche, je sais que Maria Lowell s'est inquiétée d'un homme avec qui Eleanor aurait entretenu une relation. Elle m'a montré ce qu'Eleanor avait écrit à son sujet. » Il se serait agi d'un homme plus vieux, apparemment divorcé. Mais Eleanor ne m'en a jamais parlé au cours de nos séances. Je l'aurais noté, ou je m'en serais souvenu.
« Il semble que même ses amis n'aient pas été au courant, » ajouta Galloway. « Aurait-elle pu tout inventer ?»«
Non, j'en doute, » répondit Bradbird. « Les affabulations sont destinées à être partagées pour provoquer une réaction chez autrui. Or, Eleanor a gardé ses écrits secrets. Je pense qu'elle avait honte de cette relation d'emprise. » Elle était trop intelligente pour ne pas avoir conscience d'être empêtrée dans une relation toxique.
Eleanor a-t-elle évoqué la ville de Rockland avec vous ?
Demanda encore Galloway.
Rockland ? Non, je n'en ai aucun souvenir non plus. Désolé, j'aurais voulu pouvoir vous aider davantage.
Le cabinet du docteur Bradbird était situé à proximité du quartier où habitaient les parents d'Alaska. Aussi nous fîmes chez eux un arrêt impromptu après notre visite chez le psychiatre. Robbie et Donna Sanders étaient là tous les deux. Leur accueil fut étonnamment chaleureux.
« Vous tombez bien, » nous annonça Robbie. « Je m'apprêtais à me rendre à Mount Pleasant. »«
Pourquoi faire ?» demanda Lorraine.
« Pour vous parler à vous, » lui dit-il.
« À moi ?
Oui, j'ai quelque chose pour vous. Comme je vous dis, je m'apprêtais à me mettre en route. À un quart d'heure près, on se manquait.
Robbie Sanders se saisit d'un écrin volumineux qu'il tendit à Lorraine.
Qu'est-ce que c'est ?
Demanda-t-elle.
Ouvrez-le.
Lorraine obéit. Elle y découvrit la montre en or.
Je voudrais que vous la rendiez à votre frère, dit Robbie Sanders.
Mais,
balbutia Lorraine, stupéfaite,
je ne peux pas accepter, c'est votre montre. Je ne savais même pas que vous l'aviez récupérée.
Avant-hier après-midi, le sergent Galwood est venu nous informer de la libération de votre frère. Il nous a exposé toute l'enquête. Je ne savais pas qu'Eric était votre frère. Je l'ai découvert en vous voyant à la télévision.
Monsieur Sanders, cette montre vous appartient. Elle vous a été dérobée lors d'un cambriolage.
La police l'a retrouvée et me l'a rendue. J'en fais ce que je veux. Et je veux la restituer à votre frère parce qu'elle lui appartient. Il l'a achetée de bonne foi à ma fille. Lorraine, il y a 11 ans, la vie de votre frère s'est suspendue. Mais contrairement à celle de ma fille, la sienne peut reprendre. C'est ma façon d'essayer de réparer ce qui s'est passé en partie par ma faute.
Donna Sanders nous demanda.
Il y a un motif particulier à votre visite ?
Oui, répondit Galwood. Nous avons une nouvelle piste dont nous souhaiterions vous parler. Est-ce que vous connaissez une jeune femme du nom d'Eleanor Lowell ?
Donna Sanders redressa la tête et nous adressa un regard circonspect.
Évidemment que je connais Eleanor Lowell. C'est la malheureuse qui s'est suicidée il y a 10 ans. C'était peu avant le concours de Miss Nouvelle-Angleterre, si mes souvenirs sont bons.
Ils le sont. Que pouvez-vous me dire sur elle ?
Pas grand-chose. Elle faisait du mannequinat à un tout autre niveau qu'Alaska. La carrière d'Eleanor était déjà lancée. Je me souviens qu'Alaska m'avait montré des photos d'elle dans des magazines alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Quel est le rapport avec l'enquête sur la mort de notre fille ?
Il se pourrait qu'il y ait un lien,
indiqua Galloway.
Alaska et Eleanor étaient amies, non ?
Donna Sanders pouffa.
Amies ? Faut rigoler. Alaska n'avait rien contre Eleanor, mais Eleanor, elle, la détestait.
Ah bon ? Vous en êtes certaine ?
Certaine. Eleanor crevait de jalousie. Elle voulait percer dans le cinéma, mais n'arrivait à rien. Elle voyait bien qu'Alaska avait ce qu'il fallait pour faire la différence. Eleanor savait aussi que le titre de Miss Nouvelle-Angleterre serait un tremplin pour la carrière d'actrice d'Alaska. Ce concours était connu pour cela. Quand on a proposé à Eleanor de rejoindre le jury, Alaska en a été malade. Elle me répétait sans cesse, elle va me faire échouer. Eleanor Lowell était une envieuse. Si vous parlez à ses copines, elles vous le confirmeront.
Nous avons une liste de personnes à interroger, justement, indiqua Galwood. Donc Alaska s'inquiétait qu'Eleanor sabote sa participation au concours. Et que s'est-il passé, finalement ?
Eleanor s'est suicidée,
répondit Donna Sanders du tac au tac, avant de se rendre compte de ce qu'elle venait de dire.
Eleanor s'est suicidée et Alaska a remporté le concours.
Donna et son mari se dévisagèrent. Ils paraissaient soudain épouvantés. Lorraine, Galwood et moi échangeâmes un regard appuyé. Puis Galwood reprit.
Au-delà d'une éventuelle rivalité entre Eleanor et Alaska, nous pensons qu'il y a une tierce personne qui les relie. Ce pourrait être un homme, sans doute habitant Salem, d'âge mûr à l'époque, divorcé ou sur le point de divorcer, qui conduisait une voiture bleue immatriculée dans le Massachusetts.
Ça ne me dit rien,
avoua Donna Sanders.
Moi non plus, concéda son mari. Quelle serait la nature des rapports entre cet homme et Alaska ?
Ils étaient peut-être amants, indiqua Lorraine. Vous voulez dire qu'elle aurait eu quelqu'un d'autre dans sa vie au moment où elle était avec Walter Carey ?
S'étonna Donna Sanders.
Oui. Ça fait beaucoup d'hommes pour Alaska,
s'amusa Donna Sanders qui éclata d'un rire franc et inattendu.
Qu'est-ce qui te prend, Donna ? S'insurgea son mari.
Oh, Robbie, ça ne t'a jamais surpris qu'Alaska ne ramène jamais de petits copains à la maison ? Elle était belle comme tout, désirable à souhait, et elle restait célibataire.
Je ne vois pas où tu veux en venir, dit Robbie à sa femme.
Vous saviez que votre fille aimait les femmes ?
Demanda Lorraine.
Je savais qu'elle était curieuse, sourit Donna. Nous n'en avons jamais parlé, elle et moi. Je sentais que la découverte de ses envies et de ses désirs était encore naissante. Je ne voulais pas la brusquer. Je voulais attendre qu'elle soit prête à m'en parler.
Comment avez-vous découvert son orientation sexuelle ? S'enquit Lorraine.
Quand Alaska avait environ 20 ans, une ancienne copine de lycée venait régulièrement à la maison.
J'ai oublié le nom de cette fille. Gentille, polie, discrète. Pas spécialement jolie. Une après-midi, j'avais fait des muffins. J'ai voulu leur en apporter dans la chambre d'Alaska. J'ai ouvert la porte, elles ne m'ont ni vu ni entendu. Moi, j'ai tout vu, par contre. Ma fille avait son pantalon et sa culotte baissée. Elle se tenait au montant de son lit et son ancienne copine de lycée avait le visage dans son entrejambe.
« Donna, enfin !» s'offusqua son mari.
« Oh, mon pauvre Robbie, il était tellement vieux jeu !»«
Et donc Walter ?» demandai-je.
« Walter n'était qu'une passade. Peut-être qu'Alaska tâtonnait encore. En tout cas, ça n'était rien de sérieux. S'il n'y avait pas eu cet incident avec son compte en banque qui a conduit ensuite à ce fichu cambriolage, elle ne serait jamais partie vivre avec lui à Mount Pleasant. »
Ce soir-là, de retour à Mount Pleasant, Gal Howood et moi dînâmes au National Anthem. Nous y restâmes un bon moment à boire des bières. Les samedis soirs d'été, un groupe de musique s'y produisait. L'ambiance était très sympathique. Plus tard dans la soirée, comme nous y étions encore, Lorraine et Patricia, qui avaient dîné chez les Donovan, nous rejoignirent pour boire un verre.
« Vous auriez dû venir chez mes parents ?»
regretta Lorraine. Gal Howood avait à raison décliné l'invitation des Donovan.
« L'enquête n'est pas encore bouclée, » expliqua-t-il. « Je ne voudrais pas qu'une relation trop proche avec Eric décrédibilise le sérieux de notre travail. »«
Je comprends, » dit Lorraine. « Mais heureusement que votre coéquipier Marcus n'a pas une liaison amoureuse avec la sœur de l'ancien coupable. »
Gal Howood éclata de rire. Il riait rarement. Cela me fit plaisir de le voir se détendre ainsi. Le groupe de musique entonna alors un vieux tube funk et Patricia prit Gal Howood par la main pour l'entraîner sur la piste de danse. Je restai seul avec Lorraine qui s'accrocha à mon cou. Elle m'embrassa, puis son visage se fit soudain sérieux.
« Comment tu vas ?» lui demandai-je. « Ça va. C'est bizarre de revoir Eric chez mes parents. Et personne ne sait comment se comporter. À commencer par moi. Patricia m'avait pourtant prévenu que ce serait difficile. » Je voudrais emmener Eric à la plage de Kennebunk demain. Je crois que ça nous ferait du bien.
« C'est une bonne idée, » l'encourageai-je.
Elle planta ses yeux dans les miens.
« Marcus, on va boucler cette enquête et après ça ?»«
Après ça quoi ?»«
Après ça, qu'est-ce qu'on devient, toi et moi ?»« Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi dans ma vie, Marcus. Je ne sais pas comment je vais te retenir ici et t'empêcher de retourner à New York. »«
Qui te dit que je veux retourner à New York ?»
« Qu'est-ce que tu viendrais faire à Mount Pleasant ?»
Elle avait raison. En regardant Lorraine, je songeais à Emma, à Hélène, à Tante Anita, et je me demandais quel était le lien entre ces femmes. Je commençais à me rendre compte qu'elles me permettaient de perpétuer un imaginaire, une quête impossible, celle d'une vie paisible et apaisée. Celle de la vie fantasmée de mon oncle Saul et de sa famille, les Goldman de Baltimore, dont j'avais toujours cru qu'ils avaient été épargnés par les tourments et les écueils. Au-delà de cette illusion que je nourrissais, quelqu'un m'attendait. Et ce n'était pas Lorraine. Harry me l'avait rappelé l'autre soir après l'opéra. Il y avait quelqu'un sans qui ma vie était incomplète. Et tandis que Lorraine me parlait de l'avenir à deux, je pensais au billet de concert d'Alexandra Neville que Harry m'avait remis et qui avait lieu le lendemain. J'hésitais à m'y rendre. J'étais partagé entre l'envie de réparer le passé et le futur concret que m'offrait Lorraine. Avais-je le droit de la faire souffrir ? Il était 1 heure du matin lorsque Gal Howood et moi quittâmes le National Anthem pour rentrer à notre hôtel.
« Dites donc, sergent, » lui dis-je en remontant la rue, « votre petite danse avec l'avocate. »
« Je vous arrête tout de suite, l'écrivain, ça n'avait rien de sensuel. Elle voulait m'entraîner loin de Lorraine. »
« Loin de Lorraine ? Pourquoi ?»«
Patricia s'est entretenue avec Eric au sujet d'Eleanor Lowell. Apparemment, il s'est montré très fuyant, étrange, comme si quelque chose n'allait pas. »«
Comme quoi ? » demandai-je.
« Patricia n'a pas réussi à me l'expliquer concrètement. Elle a parlé d'une intuition. Quand elle a commencé à lui poser des questions sur son ancienne voiture, il s'est braqué. Il affirme l'avoir vendue, mais qu'il n'a pas de traces de la vente. » La transaction s'était faite en liquide.
Et ça vous inspire quoi, sergent ?
Des doutes, l'écrivain. De nouveau des doutes.
Galloway et moi roulions en direction de Salem, où nous nous apprêtions à interroger les amis d'Eleanor Lowell. Dans l'habitacle, nous étions silencieux, pensifs, tracassés par les révélations de Patricia Whitsmith. Même elle commençait à mettre en doute l'innocence d'Eric.